Donc on a commencé par, par la fin, en faisant un petit pot, parce que Mathias était parti à la chasse au quenel, que Dave lui a demandé. Donc ce soir on accueille Dave, merci, merci d'être
bonsoir,
présent.
Bonsoir, merci d'être là, c'est trop cool.
Voilà.
Deeply appreciated.
Donc, ce que parmi vous, on a des personnes qui ont l'habitude de venir aux Encombrants. Donc, je voulais quand même faire une présentation du déroulé de la soirée. Donc, les Encombrants, c'est synonyme de ripaille. C'est tous les deuxièmes jeudis du mois où on se retrouve, on parle de SF, etc. Mais on fait toujours ça de manière très conviviale autour de... on dresse la table, on mange, on boit, etc. Ça discute. Donc là, ce soir, on fait un encombrant un peu spécial, puisqu'il y a Dave qui nous a rejoint avec Mathias, son éditeur. Du coup, on va faire une partie un peu traditionnelle, la rencontre et la discussion. Comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir dans la discussion, à poser vos questions, c'est un peu l'objet de la rencontre. Et puis ensuite, on dressera la table sur les tréteaux, et alors là... on finira la grume et on verra si on partira dans la grille.
Et c'est moi qu'on mange. C'est moi qu'on mange.
Oui, on va te déguster.
J'ai bien compris.
Donc voilà. Donc merci, merci encore une fois à Mathias. On a réussi à saisir Dave qui est je veux dire l'animal littéraire le plus difficile à attraper entre ses différents voyages et tout. Là, on saisit parce que tu habites
Montréal.
Mmh. Et voilà. Donc c'est un peu ce qu'on a mis dans le mot. T'es peut-être la plus québécoise des auteurs marseillaises de l'ASF francophone en passant par l'Islande. Voilà. Donc ça fait tout ça un riche univers que Dave déploie dans ses romans. Précédent roman qui était à la Volte. Donc on peut citer Elliot du... Enfin, entre autres, mais on va dire dans les plus récents, Elliot du Néant, mm-hmm. justement, qui avait un lien avec l'Islande. Mm-hmm. Sous la colline avec ta cité de naissance, mm-hmm. c'est ça
pas de naissance, enfin, mais j'habitais en face.
Voilà, ouais. Donc Marseille.
Ouais.
Et puis des nouvelles dont on va revenir dessus peut-être plus tard. Mais, et le tout dernier, qui est Toxoplasma, qui lui se situe complètement, pour le coup, à Montréal, mm-hmm. Même dans un lieu particulier de
qui est mon quartier.
Qui est ton quartier.
Qui est le quartier de Rosemont-Petite-Patrie, donc vraiment l'extrême ouest de Rosemont-Petite-Patrie, à la limite de Petite Italie, de Mile End, et de Parc Extension et de Mile X. Donc c'est vraiment une convergence de plein de quartiers. Oui.
Et tu t'es dit, enfin c'est un lieu qui t'a, je suppose, fortement inspiré, parce qu'en fait c'est ce qu'on retrouve à peu près dans beaucoup de tes ouvrages à chaque fois, c'est... un lien hyper fort avec les lieux où, dans lesquels tu habites ou dans lesquels tu vis. Ouais. Tu arrives à nous faire, je trouve, très bien ressortir ces différents liens qu'il y a avec, avec les lieux, tant par la géographie que l'histoire, les personnages, les gens qui y habitent. Mm-hmm. Donc là, je suppose que si tu situes l'action de Toxoplasma là-bas, c'est que tu as dû rencontrer des gens formidables. Décris-nous peut-être un peu s'il y a eu un cheminement par rapport à ça ou...
Moi, je suis parti à Montréal après la Manif pour tous, où je me suis rendu compte que j'étais en danger de mort en France. oui. Donc, je suis parti là-bas, j'ai eu l'occasion de pouvoir vivre là-bas grâce à l'école pour laquelle je bossais, qui avait un offshoot là-bas. Et donc, parce qu'il faut avoir un taf, à moins d'être réfugié politique. Ce qui n'était pas encore le cas, mais ce qui n'était pas encore le cas. Et du coup, je me suis pris l'affection complète pour ce pays, cette pensée, cette langue surtout. Je crois que c'est la langue du Québec qui m'a d'abord saisi, quoi. C'était vraiment le joual, donc, qui est l'argot de Montréal, qui m'a saisi parce que j'ai trouvé ça fantastique. Moi, je trouvais que le français patinait un peu dans la choucroute avec son espèce d'académisme comme ça et tout, alors que les Québécois et les Québécoises, ils n'ont aucun problème à dynamiter toutes les barrières, à mettre de l'anglais refrancisé, inventer des mots, inventer des constructions, virer des pronoms, virer des articles, même si dans leur littérature, ils sont quand même assez structurés, surtout dans leur poésie d'ailleurs, à l'oral, c'est magnifique. Voilà, moi j'ai été conquise par ça, et du coup j'ai rencontré beaucoup de gens dans mon quartier, dans mon allée, et donc j'ai beaucoup discuté avec ça, et je me suis prise de passion pour cette ville et pour cette vie que j'avais là-bas, parce que c'est moins cher, parce que c'est très open, en termes d'égalité homme-femme, c'est hallucinant le travail que les féministes ont fait dans cette ville, et maintenant on a élu la première mairesse de Montréal il y a 2 jours là, et elle est de gauche-gauche, quoi, donc ça va commencer à bouger encore plus. Et du coup, c'est devenu vraiment ma ville d'adoption, littéralement, en fait, quoi. Et je me suis senti chez moi, en fait, pour la première fois de ma vie depuis très 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 longtemps. Et du coup, quand on est chez soi, ben, on peut devenir soi-même, en fait. Et voilà, donc ça a accompagné aussi ma transition et cette acceptation-là aussi, qui était compliquée pour moi à accepter en Europe, quoi. À cause, ben, justement, du regard sur moi-même et du regard du monde autour de moi, quoi.
Et donc, tu as mis en scène des héroïnes,
Oui.
des femmes fortes,
Oui.
enfin, qui vont avoir un chemin. Tout commence. En fait, c'est un ouvrage, on va dire ce qu'il n'est pas, ou ce qu'il ne pourrait être. Et puis petit à petit, on va cheminer. Ça pourrait être un thriller. Ça commence comme un thriller. Il y a un meurtre.
Alors, c'est un meurtre véritable qui est arrivé, sauf qu'il n'est pas arrivé à côté de chez moi. C'est donc un meurtre terriblement horrible, qui est le meurtre d'un raton laveur qui a été décapité et dépecé et posé dans une balançoire en plastique pour les enfants dans un parc pour enfants. Avec les deux petites pattes qui dépassent là dans les trous de la balançoire. Oui, non, non, c'était vraiment immonde. Alors, ils avaient passé une photo de ça dans les journaux où en fait le truc était dans un sachet plastique et flouté. Et on voyait des traces de sang, on voyait quand même le truc, enfin, c'était vraiment immonde, il y avait du sang sur le gravier et tout,
C'est-à-dire que ça
c'était un cauchemar.
suggérait plus
Ah ouais, non, non,
que.
c'était un vrai cauchemar, quoi. Et puis alors, vraiment, je veux dire, tuer un raton laveur. Alors, les ratons laveurs sont particulièrement pénibles à Montréal, il faut savoir qu'ils sont la rage, qu'ils tuent des chats, qu'ils mangent des chats. Donc c'est des gros trucs, ils sont en famille, c'est quand même un péril à Montréal, hein, les ratons laveurs. Donc je peux imaginer que certains psychopathes aient envie de les massacrer, mais c'est pas arrivé. Dans le bouquin, ça arrive à côté de chez moi, donc au parc Gaspé. En réalité, c'est arrivé au parc La Fontaine, qui est un parc un peu plus rock'n'roll, dans le quartier d'Hochelaga, qui est un quartier un peu plus punk, quoi, quand même. Faut quand même le dire. Mais c'est le point de départ du livre, oui, c'est le moment où j'ai commencé à écrire le livre, c'est quand j'ai lu ça dans les journaux, j'ai fait, ah, non, mais non, non, c'est ça qu'il faut que j'écrive, quoi. Je peux pas commencer avec autre chose que ce meurtre, en fait. C'est complètement fou comme histoire, quoi. C'est tellement horrible, quoi. Et surtout, je crois que c'est une petite patte, là, qui descend. C'est le fait de l'avoir assis dans la nacelle, là, avec les petites pattes qui sortent, là. C'est vraiment un truc de fou furieux, quoi.
Donc au départ, on commence du coup avec Nikki,
Ouais,
qui
Nikki
va
Chausson.
enfin qui est une enquêtrice pour chat.
Oui.
Comment pourrait la
Bah non, mais c'est
au
ça,
début,
mais
comment
c'est ce que
on
j'ai
a
fait. C'est
voilà.
ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Montréal. Nikki, c'est moi. Enfin, c'est moi. Moi, ça fait déjà un certain temps que déjà j'expérimente avec la formule féminine dans mes romans, à laquelle je vais m'astreindre maintenant, parce que c'est ça dont j'ai envie de parler. Déjà sur Colline, c'était ça, mais c'était sur le transgenre, donc c'était déjà plus proche de moi. Mais Nikki, c'est moi. Elle vit dans mon appart, hein, d'ailleurs. Elle vit dans mon allée. Les personnages que vous rencontrez, c'est des gens que je connais, enfin, que j'ai transformés, que je connais, parce qu'elle est pauvre. Voilà, oui, elle vit chez moi, et donc moi, quand j'ai commencé à arriver à Montréal, c'était un peu dur pour moi d'être là, j'ai commencé à chercher les chats dans le quartier. Parce qu'en fait, il faut savoir que Montréal, donc il y a des structures en allée, comme ça, derrière, des très jolies allées, mais il y a aussi des structures devant, avec les routes et tout, et des fois, les chats, ils sortent et ils s'échappent, parce que tous les chats veulent s'échapper, évidemment, et ils se perdent. Et donc, tout le quartier est rempli de posters de chats abandonnés, de chats perdus, c'est horrible. Alors, on voit tous ces chats là, trop mignons, avec des textes absolument adorables, il faut ses médicaments, retrouver l'amour, enfin, c'est vraiment déchirant, moi. Tu passes dans la rue, tu pleures, quoi. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, faut que je le fasse. Faut que je cherche. Voilà. Et donc, je me suis fait une sacoche avec une lampe torche, des machins, des petites croquettes, des trucs comme ça, si, littéralement. Et du coup, je passais à mi-temps, en fait, mon temps à Montréal, à chercher les chats. Et donc, ce que je raconte, c'est qu'en 6 mois, j'en ai trouvé deux. Et j'en ai trouvé deux et j'ai gagné 20 $. Parce que la plupart du temps, quand les gens demandent de ramener leur chat avec récompense, en fait, ils trouvent des moyens de ne pas vous payer. Notamment, j'en ai eu un, c'était assez génial. Donc je retrouve son chat, c'était lui. Hein, il avait la tache blanche, il avait la queue dans la bonne forme, c'était exactement lui, quoi. Et donc je le retrouve, le gars, je l'appelle, je dis, j'ai votre chat, j'ai votre chat, j'étais super fier. J'ai votre chat, j'ai votre chat. Et le mec arrive, il me dit, c'est pas mon chat. Je lui dis, mais si, c'est votre chat. Il me dit, non, non, c'est pas mon chat, il est plus grosse. Je lui dis, mais vous l'avez perdu il y a 3 mois. Votre chat, elle est morte de faim, quoi. Elle est toute fine, la pauvre, elle va mourir, quoi. C'est votre chat, je vous dis. Et en fait, donc le gars a douté, il disait, ah, je suis pas sûr, machin, etc. Et donc moi, je suis parti, et en fait, j'ai tourné au coin, je regardais du coin de l'œil ce qu'il faisait. En fait, le mec s'est barré, en fait, il voulait plus de son chat. Il voulait plus de son
Et
chat.
alors, pour se dédouaner, il avait mis quand même un avis de
Mais
recherche.
c'était il y a 3 mois, donc depuis, il a dû se dire, mais en fait, ma vie est plus simple sans mon chat, quoi.
Il avait adopté un raton laveur,
Ben non,
peut-être.
mais c'est pas. Mais un chat, ça peut être pénible. Hein. Moi, mon chat, elle est horrible, quoi. En ce moment, elle se fait pouponner par ma voisine, parce que donc les chats libres, moi, les chats, elle est libre dans mon allée. Elle se fait pouponner par ma voisine, qui est donc aromathérapeute. Et donc, elle revient avec des petites senteurs, toute mienne, elle vient chier chez moi, dans ma litière, et elle repart. Rien à foutre. Et elle passe le temps chez ma voisine, dans ses couettes, là, c'est un truc de fou, elles sont toutes bonnes. Alors, moi, je la sens, je la prends, elles sont toutes bonnes, elle râle, et elle vient faire ses caca chez moi, et puis elle s'en va. Non, un chat, c'est quand même assez pénible, donc je peux comprendre que les gens aient envie de s'en débarrasser, sérieusement, quoi.
Non.
Ah bah je rigole, mais je vous troll, j'adore les chats, j'adore les animaux. Mais voilà, quoi, je peux comprendre que certaines personnes, des fois, trouvent que l'ingratitude des chats ne mérite pas qu'on fasse tout ça pour eux, quoi.
Ils sont des animaux indépendants.
C'est ça. Et d'ailleurs, quand ils sont libres, c'est étonnant parce quand ils sont libres, ils se font naturellement plusieurs maîtres et plusieurs maîtresses. Et c'est un truc qu'il faut comprendre. Moi, au début, j'étais vachement vexé.
Oui, c'est ça.
Au début, je me suis dit, je préfère une autre femme. Je veux dire, c'est pas assez bien pour toi. Il y a pas assez des bonnes odeurs. C'est pas assez confortable. Les croquettes sont pas bonnes. Enfin, c'était assez horrible pour moi. Quoi. Je l'ai vraiment pris personnellement, en fait. En fait, non.
Non.
Il faut pas. C'est chat, quoi.
C'est un chat.
Voilà.
Alors donc autre élément qui te lie à ce lieu et à cet univers, c'est aussi un peu on va dire une sorte de géopolitique interne que tu as recréée, qui est fictive mais
pas tout à fait,
pourrait voilà qui est, de la même façon dans le roman on comprend petit à petit que l'action va se dérouler dans ce qu'on appelle la commune de Montréal, donc c'est une transposition des communes qu'on connaît ou pas ? Quelle est la différence ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'avais besoin d'accréditer le fait de ce qui se passe aujourd'hui dans le réel par rapport aux États-Unis, parce que nous, au Québec, on est hyper proche des États-Unis. D'ailleurs, on a récupéré tous les immigrés, les fameux Dreamers américains, qui ont été donc le programme américain haïtien qui a été lancé par Obama quand il y a eu le grand tremblement de terre et qui a été cancel qui a été menacé d'annulation par Trump. Et nous, on s'est pris 700 immigrés, 700 réfugiés tous les jours, quoi, qui arrivaient. On leur a ouvert un stade et tout. On en a pris 50% quand même, ce qui n'est pas rien. Et du coup, il y a une réalité par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par rapport au fascisme qui est en train de monter aux États-Unis, par rapport à ce qui se passe en Europe aussi, le fait de la fragmentation, la nationalisation et compagnie. Donc j'ai poussé un tout petit peu plus le curseur en disant, et si tout ça devenait vraiment anthropique et ça partait vraiment en sucette, comment est-ce que Montréal réagirait ? Et donc Montréal, qui est une ville qui est très particulière au Québec quand même, hein, il faut le savoir, le Québec est quand même très franciliste, très, très français. Leur de vie, c'est « je me souviens ». Mais ils se souviennent de quoi ? Ils se souviennent qu'ils parlent français, en fait. Hein. C'est vraiment la langue qui est le sédiment comme ça, de tout. Et donc, mais Montréal, c'est pas pareil. Montréal, c'est vraiment une ville splittée en deux, entre ce qu'on appelle les anglo et les franco. Et donc, globalement, pour faire vite, hein, l'ouest, c'est anglo, et l'est, c'est plutôt franco. Et il y a des problèmes de racisme franco-anglo, en fait, à Montréal, littéralement. C'est-à-dire, si vous parlez la mauvaise langue au mauvais dépanneur, c'est les épiciers du coin, on peut ne pas vous répondre, on peut vous forcer à répondre en français, vous pouvez vous prendre des remarques. Jamais, enfin, il y a eu 2-3 cas d'assaut, mais bon, pas probablement par des gens qui étaient avinés, quoi. Mais il y a quand même, non, mais il y a quand même vraiment, vraiment un vrai problème par rapport à ça. Tout en sachant que les Anglos parlent parfaitement français. Non, mais c'est quand même un truc de fou, parce qu'on est obligé d'apprendre les deux langues au Canada. C'est véritablement un pays qui a deux langues. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est Anglo, avec qui j'ai parlé anglais pendant 2 ans, et puis un jour, je sais pas pourquoi je parlais français, parce que je devais être sous. Et il me répond en français, dans un français parfait. Je lui dis, mais tu parles français ? Il me dit, bah oui, je suis canadien. Je lui dis, mais pourquoi parle pas français ? Il me dit, bah, je sais pas, parce qu'on parle anglais, quoi. Et c'est des situations un peu ubuesques, comme ça, qui arrivent régulièrement. Et donc, cette ville est donc très particulière au Canada, c'est une ville d'immigrés. Il faut le savoir, moi, j'ai le monde entier dans mon immeuble, hein. J'ai de tout, hein, vraiment, dans mon immeuble. Et c'est une ville de petites communautés, mais pas de communautés fermées sur elles-mêmes. C'est vraiment des communautés qui fonctionnent très très bien ensemble. Le principe d'intégration canadien, qui est un principe d'intégration américain réussi, on va dire, pas pour tout évidemment, les autochtones ont beaucoup souffert de ce qui s'est passé au 19e siècle et même jusqu'à la première moitié du 20e siècle sur ce qu'on appelait les pensionnats pour indigènes, quoi, où on prenait littéralement des autochtones, et des Mohawks et des Algonquins, et on les foutait dans des trucs catholiques et on les brainwashait total, quoi. Ça a été des massacres. Ça a été vraiment horrible. D'ailleurs, j'en parle dans le livre.
Oui, tu fais allusion. Parce qu'il y a eu quelque chose. Enfin, on en reparlera, mais il y a eu quelque chose de très fort.
Oui, mais de très violent, au niveau santé mentale, ouais. À Montréal aussi. Mmh. Voilà. C'est pas une ville innocente, hein, Montréal. Mais donc, globalement, c'est quand même une ville d'immigrés. C'est quand même une ville où il y a quand même encore un droit à l'existence, ce que j'appelle le droit à l'existence poétique, quoi. C'est pour ça que je suis très bien. C'est-à-dire que c'est une ville d'anarchistes, littéralement. J'ai rencontré peu de gens à Montréal qui n'étaient pas anarchistes. Alors évidemment anarchistes de gauche, anarchistes communistes, anarchistes syndicalistes, anarchistes individualistes, bon, il y a toutes les tendances, etc. Mais c'est quand même le fond, j'ai pas vraiment rencontré de personnes de droite à Montréal, quoi. Vraiment, et pourtant je rencontre beaucoup de gens parce que je donne des cours, je gravite dans plein de milieux différents. Ça n'existe pas vraiment. Il y a eu à un moment donné, il y a deux, trois ans, une charte des droits des valeurs québécoises lancée par Pauline Marois, qui était à l'époque la boss du PQ, qui est le Parti québécois, qui est un peu le parti historique indépendantiste, machin. Elle s'est fait blaster, mais dans les grandes largeurs, quoi, en lui disant, mais c'est quoi être québécois, c'est porter une chemise à carreaux et boire du sirop d'érable le matin en se levant, quoi. Et donc, elle s'est fait blaster. Marine Le Pen, quand elle est arrivée à Montréal, elle s'est fait littéralement chasser. Chassée, c'est-à-dire qu'aucun hôtel, tous les hôtels ont cancel les réservations, et elle s'est fait chasser sur le tarmac de l'aéroport, elle est obligée de rentrer en France, quoi. Donc, vraiment, même les gens de droite, ils sont quand même un peu de gauche. C'est très étrange, parce que bon, c'est un pays où on a la sécu et tout, enfin, c'est quand même un pays là-dessus. C'est un pays libéral, que les choses soient claires. C'est quand même un pays américanisé, très américanisé, très nord-américain. Donc, c'est un pays où, c'est un peu marche ou crève quand même, hein. C'est tout le monde, moi j'ai trois boulots, on a la sécu quand même, mais bon, c'est quand même, on s'attend pas à ce que les gens soient au chômage. Le chômage, c'est 6 mois max. Max. Et à 50% de ce qu'on a. Donc c'est pas vraiment ça. Mais en même temps, tout le monde bosse. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses, c'est très facile de bosser là-bas, c'est aussi pour ça que j'ai émigré, c'est parce qu'en tant qu'auteur, je vais pas utiliser autrice, moi ça me fait un peu chier autrice. Je préfère auteur-re. Ouais. Même si je crois que la nomenclature, c'est autrice. C'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas, y a plus de statut. Il n'y a pas t'es artiste, t'es CDI, t'es CDD, machin, non, tout le monde est au même régime en fait. Donc je peux facturer n'importe où, c'est hyper simple, c'est beaucoup plus simple de survivre là-bas, quoi. Mais du coup, parce qu'il y a ce vivier anarchiste, parce que c'est aussi une ville qui a quatre universités. Quatre. C'est une île, hein. C'est une île aussi, hein. Donc il y a un sentiment de chaque fois qu'on est dans une île, on a ce sentiment d'appartenance un peu étrange là. Et il y a quatre universités, dont l'UQAM, qui est vraiment une université vraiment énervée, féministe, vraiment énervée, quoi. Et donc du coup, il y a eu beaucoup beaucoup d'avancées féministes dans les années 70 là-bas. Et il y a quelques années, il y a eu d'énormes révoltes, d'énormes émeutes étudiantes qui ont été matées, mais profondément. D'ailleurs, ils ont les Français ont très bien compris ça. Les manifestations pour la loi du travail qui se sont passées ici ont été matées avec les mêmes systèmes que les flics québécois ont développés au Canada pour mater les étudiants. La manière de casser les manifestations comme ça, de bloquer les accès et tout ça, ça vient du Canada. Mais ils sont quand même énervés. Je veux dire, c'est quand même un endroit très underground, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de squats, c'est quand même un endroit où il y a dans la rue, il y a vraiment une ouverture à tous les styles, à toutes les personnes, à tous les genres. C'est vraiment assez incroyable pour ça. Et donc je me suis dit, excusez-moi, j'ai fait un grand détour
non,
pour
mais
parler du sujet.
C'est bien parce que en fait tu situes ce que tu es en train de décrire là.
Je
c'est une
de,
réalité.
Je parle de la réalité moi. Hein.
C'est ce qu'on ressent complètement.
Après,
c'est ce que tu as fait ressortir dans le livre, quoi.
Après que les choses soient claires, c'est une réalité de quelqu'un qui vit là-bas depuis 3 ans. C'est pas non plus quelqu'un qui vit là-bas depuis 10 ans, qui connaît les moindres détails, les machins politiques et compagnie. Non, je vous donne moi mon expérience de quelqu'un. Voilà. Et donc je me suis dit, voilà, s'il devait y avoir une émeute quelque part, s'il devait y avoir une sécession quelque part, ce serait non pas au Québec d'entrée, ce serait d'abord à Montréal, quoi. Et donc du coup, ben, prise des ponts, parce que Montréal est relié à toutes les autres îles et au continent par des ponts, le pont Champlain, le pont Cartier, le pont Victoria, des choses comme ça. Et du coup, une espèce d'organisation interne. Voilà, le problème, c'est que comme dans toutes les villes nord-américaines et dans toutes les villes un petit peu comme ça, un peu libres et compagnie, c'est aussi une colonisation des hipsters. Ce qu'on appelle la gentrification. C'est-à-dire, d'abord, on envoie les étudiants, puis après, on envoie les artistes, et puis après, on envoie les gens, la middle class, qui ont de l'argent, et qui aiment bien faire des brunchs le dimanche, et dépenser beaucoup d'argent dans les antiquaires pour acheter un machin des années 80 qui coûte une fortune. Bon. Et du coup, je me suis dit, comment faire fonctionner une commune avec cette cohabitation entre des vrais anarchistes, des vrais énervés, des vrais féministes, des gens qui poussent à abattre le patriarcat, et en même temps, des hipsters qui sont dans leur espèce de monde virtuel, là, comme ça, et qui se disent « Oh, c'est le Mordor, maintenant !» Enfin, bon, vraiment, la branlette absolue, quoi. Et complètement dépolitisés, évidemment, qui vont aller voter à droite, à gauche, un peu, parce que, voilà, c'est la démocratie. Comment faire fonctionner comme ça? Comment est-ce que ça peut tenir? Ben, Milan, ça ne tient pas. C'est pas possible, ça ne peut pas tenir. On peut pas faire des révolutions dans les mondes virtuels. On peut pas... C'est d'abord le corps, en fait, avant tout. Et c'est de ça dont j'ai voulu parler. C'est à quel moment, justement, on arrive aux limites de la geekerie, en fait, qu'il y a aujourd'hui en prétendant qu'on est libre parce qu'on lit de la SF et parce qu'on aime les mondes de fantasy et parce qu'on regarde Netflix et parce que ci et parce que ça. Mais en fait, à partir du moment où on a des tanks en face et qu'on a vraiment l'oppression qui arrive, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ben, ils se font massacrer parce qu'ils n'ont pas les outils pour travailler. Et donc, forcément, ben, les ceux qui tiennent, c'est ceux qui ont mis le corps devant et qui savent se servir de leur corps pour faire barrière, quoi. Donc, ben, les femmes, les minorités, les opprimés, les anarchistes militants, voilà. Mais qui sont, voilà, bon, c'est dur pour tout le monde, en fait, quoi. Et sans Et j'ai eu cette discussion hier avec un militant qui est venu me parler, qui m'a dit que justement il avait beaucoup aimé tout ça, mais qu'il trouvait que c'était dommage que finalement il n'y ait pas le triomphe, je ne vais pas vous spoiler, mais qu'il n'y ait pas quand même un triomphe du corps, justement, du corps anarchiste à un moment donné, debout sur sa barricade et qui dit fuck en fait. Ben, j'ai dit ouais, mais bon, le problème c'est que ben, on se prendra toujours une balle dans le dos, ben, on se prendra toujours une balle dans le dos, quoi. Ça a toujours été le lot des anarchistes, hein. Durruti s'est pris une balle dans le dos, hein, par un marxiste soi-disant, quoi. Même si je pense qu'il y a moyen de dégager un futur pour l'humanité, un futur pour notre société, parce que j'aime pas le terme d'humanité, un futur pour notre société qui soit un futur de ce droit à l'existence poétique, qui pour moi est la condition du droit à l'existence politique, c'est-à-dire parce que j'existe en tant qu'individu dans l'univers relié aux autres, nous avons le droit de nous organiser et de construire un projet de civilisation qui nous corresponde. Moi j'ai tenté d'abord, avant tout, d'approfondir ça en fait. Qu'est-ce que c'est que le droit à l'existence politique? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est bon, je suis pas trop.
Non, c'est très, très, c'est parfait. En plus, le fait est que dans le roman, le fait de les mettre comme ça dans une commune, donc on les sent assiégés, il y a une autre tension
Oui.
qui va sans révéler la fin encore une fois, mais il y a une tension qui perdure tout le long et qui met les personnages sur un fil, quoi. Potentiellement, il y a une action externe qui peut à un moment arriver et faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.
Oui, alors bon, ça, je vais vous dire que c'est les facilités de genre, quoi. C'est les facilités de la SF, c'est les facilités de trucs, c'est que s'il n'y en a pas cette espèce de mécanisme un peu de pression où il y a un événement qui est en train d'arriver, il y a un changement qui arrive, machin, on va dans assez vain, où on décroche, voilà. Donc il y a quand même ce côté thriller, il y a quand même ce côté un peu d'aller toujours vers l'avant. Moi j'ai fait un roman de cyberpunk, hein, moi je me suis rendu compte que j'aimais écrire du cyberpunk, parce que bah, à partir du moment où j'ai assumé des choses sur moi et sur mon corps, bah, je me suis rendu compte que c'était la manière dont je m'exprimais. Qui me correspondait le mieux en termes de contemporanéité. Ouf, qu'est-ce que je viens de dire?
Et eux, tu rajoutes.
Ouais, non, ça m'arrive. Hein. Et du coup, je pense que ce genre-là, en tout cas, est aussi lié à une forme de course, de fuite vers l'avant en permanence, quoi. Et de fuite vers l'avant en permanence, de menaces extérieures, de pression, etc. Mais du coup, même si c'est une trope, un trope, non, une trope, ça me gêne pas. Une trope? Ouais, je pense que c'est une trope.
Je crois que c'est.
Tu crois que c'est un?
Hein, je crois.
Whatever.
Je veux pas dire.
Et
enfin, on s'en fout.
J'aime bien, moi, de pas savoir les genres. Quoi. Ça veut dire, c'est quand même un truc de fou, quand même. Là. Ça, c'est un truc qui est génial. Excusez-moi, parenthèse. Un truc qui est génial au Québec. C'est qu'ils n'ont pas les mêmes genres de mots
va
que nous.
Les quenelles.
Ils n'ont pas les mêmes genres que nous, quoi. C'est-à-dire que bah, il y a une profession, il y a un métier ici, c'est une job là-bas, quoi. C'est pas
Oui,
un
c'est
job,
vrai.
C'est une job. Voilà, ils changent aussi les genres aussi. C'est très intéressant de la manière dont ils jouent avec ça aussi. C'est très intéressant. Voilà, je referme la parenthèse.
Et d'ailleurs, enfin bref, on en reparlera tranquillement au cours de la soirée, mais c'est vrai que dans le roman, c'est farci de mots comme ça, du jargon et de l'argot québécois. Et c'est, enfin, moi j'adore parce que c'est justement, on passe notre temps à aller chercher ce que ça veut dire parfois. Enfin,
c'est vrai?
Bah, le chum, tout ça,
alors,
ça se
chum,
prononce comme ça, non?
Oui, alors chum, c'est un mot qui est très intéressant. Chum,
Ouais.
pour une blonde, donc ce qui s'appelle les blondes là-bas, hein, ça veut dire le copain. Mais pour un mec, mon chum, c'est mon pote. C'est assez intéressant, quoi. Mais ils ont d'autres choses qui sont complètement funny, comme ça. Par exemple, ils disent pas « je vais chez moi », ils disent « je vais chez nous », même s'ils vivent seuls. On voit comme pas pour la drague. L'enfer
ouais,
que
tout de suite,
c'est, quoi.
Ouais.
Bon, allez, on va chez nous. Alors elle me propose un plan
Alors,
à trois, elle a un mail, il a, je sais pas trop, c'est compliqué. Voilà, il faut demander, il faut préciser. Mais en fait, non, chez nous, c'est vraiment chez moi, en fait. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont assez drôles
c'est
des fois.
On
quoi.
s'installe déjà.
Hein?
C'est chez nous, ça y est, on s'installe déjà.
Non, mais c'est chez nous, parce que c'est la maison, en fait, quoi. Ils ont cette conscience vraiment.
Ouais.
C'est chez nous, quoi.
En fait, c'est inclusif, c'est-à-dire
c'est ils accueillent
ils
vraiment.
accueillent,
Oui,
c'est ça l'idée.
Ils sont hallucinants là-dessus. Ils
Mais
accueillent vraiment,
on
quoi.
retrouve ça aussi beaucoup, par exemple, en Afrique ou dans. Enfin, il y a une façon d'accueillir comme ça, d'inclure
Ah,
les étrangers.
Moi, quand je rentre chez moi, là, je vais rentrer chez moi samedi, je vais voir tous mes voisins venir chez moi, me dire, ça y est, t'es rentré, tiens, on t'a amené des madeleines. C'est systématique, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on s'insère dans une espèce de tissu social comme ça, il y a vraiment une présence, il y a vraiment un regard. Mon chat, tout le monde la connaît. Il y a des gens qui viennent me parler de mon chat régulièrement, quoi. Et elle dort chez les voisins, elle va dans les quartiers. Moi, j'aide. C'est assez incroyable, quoi. C'est vraiment des vies de quartier aussi, Montréal. Hein. C'est très important aussi, ça, la vie de quartier à Montréal. Je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet.
Non. C'est l'objet des discussions. C'est d'aller où on va.
Ok, cool. Bon,
Voilà.
On y est.
Et les encombrants, on en fait ce qu'on en veut.
D'accord.
Tu parlais de roman cyberpunk.
Oui.
Alors, c'est manifeste. Déjà, on sentait deux, trois petites choses à travers des précédents écrits. Mais alors là, tu nous réinventes en fait un espèce d'Internet. Parce que donc, dans ce monde qui est un peu bouleversé, où il y a cette île qui est assiégée, bien évidemment, toutes les structures qu'on connaissait à peu près, elles tombent. Il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a plus d'internet, mais heureusement, il y a un bout d'électricité qui permet de faire quelque chose d'incroyable.
Voilà, alors ça, c'est un de mes grandes interrogations aujourd'hui. C'est tout le monde dit, ouais, internet, ça va nous libérer, c'est super, ça nous permet d'organiser. Oui, mais qui contrôle les moyens de production, quoi? C'est toujours la question, la vaste question, voilà, c'est qui contrôle l'électricité, qui contrôle les serveurs, voilà. Et donc, dans ce monde-là, internet s'est écroulé, en fait, et en fait, ils ont gardé les puissants, les corporations, ceux qui ont les moyens de production, ont gardé une espèce d'ersatz d'Internet qui s'appelle la grille, qui a été quelque chose que j'avais déjà formalisé dans Minuscule Faucon de Neige depuis 10 minutes, qui était déjà une espèce de grille comme ça, un peu corporate, un peu menaçante, et qui est siphonnée par des hackers et des hackeuses, par un espèce de système de contre-Internet qui s'appelle le Trophonion. Et le Trophonion vient se greffer. Alors, Trophonion, ouais, c'est un nom bizarre.
Oui, vas-y.
Bah, c'est un nom un peu bizarre, mais c'est un nom grec.
Voilà.
C'est très important, c'est un nom grec, c'est le nom d'un oracle grec créé en l'honneur d'un espèce de héros qui était un charlatan, en fait, et qui est un oracle grec et qui est un oracle chtonien, donc souterrain, et qui était un oracle assez spécial. J'en parle pas beaucoup dans le livre, je dis juste que c'était un oracle, mais je veux que les gens aillent chercher. D'ailleurs, les gens vont chercher.
Ils vont chercher,
ouais. C'est assez étonnant, et c'est exactement ce que je voulais, parce qu'autant je donne des références partout, à un moment donné, il y a Delphes, il y a d'autres trucs comme ça, mais celui-là, je voulais pas en parler.
T'as les archontes.
Ça a été un truc dont on a beaucoup parlé avec Mathias, où il me disait, mais alors le Trophonion, vas-y, dis ce que c'est, etc. Et je dis, non, je veux pas. Celui-là, je le garde. Celui-là, je veux vraiment que les gens se demandent si vraiment c'est un truc vrai ou si c'est un truc inventé. Et donc, du coup, il y a ce contre-Internet qui est venu se greffer sur Internet. Et par Internet, ce que je veux dire, c'est vraiment un truc sur lequel je travaille énormément, c'est la formalisation de la matrice. Moi, je suis une fan absolue de William Gibson. Je veux dire, je crois pas avoir jamais lu dans ma vie quelque chose qui m'ait autant remué que Gibson en termes de modernité. Hein. Je trouve toujours que c'est quelqu'un qui écrit la modernité merveilleusement bien. Son dernier bouquin, si vous l'avez pas lu, il faut le lire absolument, The Peripheral, quoi. Qui est un bouquin de SF admirable. Quoi. Je veux dire, il a fait des trucs un peu avant qui étaient un peu plus chiants, mais là il est revenu à la SF à fond et franchement c'est génial. Mais la trilogie du Sprawl, donc Neuromancien, Count Zero et Mona Lisa s'éclate, Mon Essai de l'Overdrive, c'est pour moi des choses que j'emporterai dans ma tombe. En fait. Je veux dire, j'ai les éditions originales, c'est des choses que j'adore. Et j'ai toujours été fasciné par la manière dont Gibson avait formalisé la matrice. Waouh, c'est pas mal.
C'est c'est une attaque, c'est un backdoor qui vient.
C'est une
cyber-attaque. Waouh. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, ça vient poser là, exactement.
Ça vient au bon moment.
Ouais.
Quand c'était au niveau des ratons laveurs, tout ça, ça aurait fait un peu incongru. Là, ça passe.
J'ai toujours été assez fasciné par la manière dont Gibson avait formalisé la matrice, c'est-à-dire que lui disait qu'il n'avait pas d'ordinateur, ça ne l'intéressait pas à l'époque, il écrivait encore sur une machine, mais il avait tous ses potes qui faisaient des trucs bizarres avec des vecteurs et machin, et lui prenait du LSD à fond, quoi, et il disait, voilà, quand je voyais ces images-là, quand je voyais ces mots-là, j'imaginais des choses incroyables, et c'est comme ça que j'ai imaginé la matrice. Et je me suis dit, est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin que ça? Est-ce que je peux réellement revenir à une espèce d'essence de ce que c'est que le hack aujourd'hui, c'est-à-dire que les choses soient claires, de la ligne de commande pure? Et est-ce que je suis capable d'envisager des gens qui visualisent ce que ça veut dire, ces scripts sur des lignes? Ça prend deux choses. Ça prend à la fois une capacité d'abstraction et une capacité de représentation commune, donc régie par des termes communs, et régie par une réalité partagée, qui pour moi, sur le Trophonion, est la mythologie grecque. Enfin, pas la mythologie grecque au sens la mythologie olympienne, plutôt une mythologie orphique, on va dire. Donc, c'est des mots qui permettent aux gens de s'organiser. Pourquoi? Parce que, si on réfléchit bien, si on revient à Gibson formalisait les bases de données comme des abstractions, et chaque deck, c'est-à-dire chaque console qui permettait de s'interfacer avec ces bases de données, proposait une manière d'interpréter les bases de données. Donc, je pouvais avoir une base de données, on va dire, médiévale, et je voyais tout avec des chevaliers et des démons médiévaux et des machins, tout comme ça. Je pouvais avoir une base japonaise où je voyais tout avec des tengu, je voyais tout avec des machins, etc. Mais on voyait la même base de données, mais on ne voyait pas la même chose. On l'interprétait pas de la même manière suivant la console qu'on avait. Moi, je me suis dit, bon, là, on n'a pas cette précision-là, parce que les mecs, les hackeuses, elles bidouillent avec des Minitel, des tam-tams, des machines, des Raspberry, enfin, c'est très low-tech, tout ce qu'elles ont. Elles ont que de la ligne de commande, quoi. Donc, il fallait trouver un moyen de les organiser. Donc le premier moyen que j'ai eu de les organiser, c'est de créer ce que j'ai appelé la pneuma, qui est une sorte de vocabulaire en fait commun que tout le monde peut partager pour dire les mêmes choses. Et la seconde chose, c'est la fameuse grume qu'on a un peu ce soir. Qui est une espèce d'alcool, alors on ne sait pas trop ce que c'est au début, j'ai pas envie de vous spoiler. C'est complètement lié à l'univers en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est une drogue qui est comme ça, c'est complètement lié à ce qui se passe en fait, la grume quoi. C'est une espèce de serpent qui se mord la queue, pour faire simple, et tout le monde l'a lu, qui ne l'a pas lu? Bon, il y a quand même du monde dont je vais me taire. Donc je ne peux pas vous dire ce que c'est la grume, voilà. Mais disons que la grume, c'est quelque chose qui permet aux hackeuses et aux hackers de voir les mots et de les transformer en vecteurs, en vagues, en motifs, en choses comme ça, et qui sont attrapés avec des mots de vocabulaire partagés. Voilà. Mais c'est, tout ça, c'est très, 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 très low-tech. Et moi, d'ailleurs, le prochain bouquin que j'écris là-dessus, je vais encore un degré, encore en dessous, quoi. C'est que je vais encore essayer de voir si on peut vraiment s'approcher au plus près de cet espace commun virtuel dans lequel on est capable de faire des choses qui vont impacter le réel. Et donc, parce que bah, du coup, si on fait des choses dans le virtuel, à un moment donné, ça finit par impacter le réel. Si on est suffisamment à y croire, si on est suffisamment à y contribuer, à partir du moment où on a les outils, les moyens de production, on est capable d'impacter le réel. J'ai envie d'aller plus loin encore là-dedans, et j'ai envie de me poser vraiment cette question, de dire, voilà, est-ce qu'on peut sortir finalement de ce qui est devenu l'Internet aujourd'hui, qui est une espèce de benne à ordures en feu, quoi. Et est-ce qu'on peut arriver à retrouver une forme d'éclat, non pas esthétique du cyberpunk, mais une réelle philosophie de ce qui se passe aujourd'hui face aux corporations, face aux gouvernements qui sont en train de s'écrouler. Il n'y a qu'à voir la manière dont les gouvernements s'écrasent devant les paradis fiscaux, quoi. Enfin, je veux dire, si ça, c'est pas cyberpunk, je ne sais pas ce que c'est que le cyberpunk, quoi. C'est hallucinant ce qui se passe. Là, on nous dit qu'on commence à fliquer, qu'on embauche des gens pour fliquer des gens qui touchent 500 euros par mois. À côté, on a 182 milliards qui fuient, quoi. Moi, je ne comprends pas. J'ai plus les outils pour comprendre ça mentalement, quoi. Et là, je me dis que là, c'est la pente. Là, c'est même plus la pente. Là, on est dans l'abysse, quoi, en fait, littéralement. Et donc, je me dis, bon, est-ce qu'on n'est pas en train de penser qu'il ne faut pas, quelque part, que la SF soit aussi un manuel de terrain et soit aussi un moyen pour les gens d'accrocher des choses du réel, de se raccrocher de plus en plus au réel et de dire, on pourrait réinvestir tout ce qu'on a appris de la SF qui était à plus 20, 30, 40, 50 ans et de le remettre dans le quotidien, en fait, et de voir comment on peut s'en servir littéralement aujourd'hui, quoi, pour pouvoir résister, en fait. Alors, je ne dis pas que j'y arrive, hein. Modestement, j'apprends, même moi, j'ai eu tellement de mal à accepter des choses sur moi et à mettre mon corps en jeu pour résister que je suis à peine au début de tout ça, quoi. Mais j'ai l'impression que, à part ça, je ne vois pas trop l'intérêt, en fait, de continuer à écrire, en fait. Voilà. En tout cas, de la SF.
Ouais. Et alors, justement, ces personnages, pour remettre en cause l'ordre établi, tu dis qu'elles se lancent dans des... elles utilisent ce troufognon là et elles se lancent dans quelque chose qui rejoint aussi quelques-uns de tes sujets de prédiction, c'est-à-dire les jeux vidéo. J'ai trouvé qu'il y avait des analogies assez fortes avec ce qu'on peut imaginer dans par exemple des jeux comme World of Warcraft, où des joueurs se rassemblent et font ce qu'on appelle des rushs. Alors, est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que, enfin,
je pense.
C'est un peu, enfin voilà. Moi, j'avais l'impression de retrouver ça.
En fait. Oui, mais en fait,
il y a beaucoup d'allusions faites à des formes de communautés qui se recréent de façon virtuelle pour accomplir des tâches ensemble. Alors que c'est des gens qui, dans la réalité, sont très éloignés, se connaissent pas, enfin, n'échangent peut-être pas forcément. Est-ce que, enfin. Dans ton cyberpunk, celui que tu décris, comment est-ce que des gens comme ça, qui peuvent être très éloignés, arrivent à se retrouver?
Je crois que tu mets le doigt sur quelque chose qui est pour moi hyper important, et j'ai pas cessé au cours de ces 12 derniers jours de le répéter. C'est que je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est réellement le lien, la recréation du lien entre les gens. C'est pour moi, il est là l'enjeu, c'est-à-dire que je pense qu'il faut accepter la fragmentation du monde, il ne faut pas tomber dans les idées de rassemblement que les politiciens essaient de nous vendre. Je pense que tout ça, c'est de la vaste bêtise. C'est mon avis personnel, attention, hein, je ne veux pas du tout faire de cliché ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il faut accepter la fragmentation du monde, parce que la fragmentation, la diversité, c'est la richesse. La différence est belle. Voilà. Mais On a été poussé à croire que la différence était belle quand elle était isolée des autres et quand surtout elle voulait pas trop se mêler de ce qui se passe. Et donc ça, c'est là où ce moment, c'est le moment où l'ennemi nous saisit et nous attrape et nous soumet, en fait, quoi. C'est dans se dire, voilà, bah t'es bien tranquille chez toi, là, avec ton Netflix, avec ta bulle de réalité, le machin. Maintenant, tu fermes ta gueule, tu coupes tous tes liens, et voilà. Bon. À partir de là, on peut envisager que la recréation des liens, dans un premier temps, elle se soit faite sur Internet. Elle se soit faite à travers, justement, ce que tu as appelé les rushs dans des instances, c'est-à-dire globalement des regroupements de personnages qui travaillent ensemble pour accomplir des choses qui sont uniquement motivées par l'appât du gain. Que je sois clair, le jeu vidéo est capitaliste à mort, le jeu vidéo en ligne, il est capitaliste à mort, quoi. Je veux dire, EVE Online, qui est une des grandes plateformes comme ça, multijoueur, où littéralement l'économie est livrée à la main des joueurs, c'est faire plus de thunes.
C'est amasser, quoi.
Amasser, faire de la thune, ce qu'on appelle faire du loot, quoi. Et moi, ça, je pense que c'est le mur. Je pense que c'est le mur, je pense que c'est un moment donné où les gens croient qu'ils créent du lien, mais en fait, ils ne créent pas du lien. Ils créent effectivement des masques, des illusions de lien, mais ils ne créent pas du lien. Faire un run, c'est-à-dire faire une course de runners, de hackers, de hackeuses sur des corporations pour aller péter leur base de données, pour aller voler des choses, pour aller implanter des choses, pour aller parasiter des choses, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Il y a une motivation politique, il y a qui va impacter le réel. Parce que si on vole et si on pille des secrets à une corporation et qu'on décide de les divulguer, le réel est changé. Le réel, il change pas dans vos... Si, peut-être que le réel peut changer entre deux personnes, effectivement. Il peut y avoir effectivement un lien qui se crée comme ça, quoi. Mais... Donc ça, c'est pour vraiment différencier les deux. Moi, les jeux vidéo, je suis extrêmement suspicieuse de ce qui se passe avec les jeux vidéo en ce moment. Je trouve que globalement, ça tend plutôt vers le fascisme, en tout cas dans ces grosses œuvres, quoi, dans cette masse industrielle. Ça tend vers le fascisme, ça tend vers le sexisme, ça tend vers l'exclusivité, ça tend vers l'exclusion. Je ne parle pas des jeux vidéo indépendants. Les jeux vidéo indépendants ont des choses magnifiques, expriment des visions d'auteurs, des visions d'artistes, des visions extrêmement précises et belles sur le monde. C'est un mode d'expression sublime. Ça n'a rien à voir, je ne parle pas de ça. Concernant la recréation du lien entre nous, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à un moment donné, nous avons perdu la capacité de nous parler les uns les autres, les unes les autres, que nous avons perdu une certaine forme de capacité d'empathie aussi, et que nous servir de ce que nous avons appris sur Internet, de ce que nous avons appris des réseaux sociaux, de ce que nous avons appris des recherches, peut nous permettre, en le sortant d'Internet, de recréer des choses entre nous. C'est-à-dire de nous servir de ce qui nous lie là-bas, ici. Alors, c'est hautement expérimental, ce dont je vous parle, évidemment. C'est de la cybernétique. Hein. C'est une forme de cybernétique appliquée à l'intimité, quoi. Est-ce qu'il est possible d'envisager qu'on puisse se servir de ce qu'on est en train d'apprendre sur Internet et dans les espaces virtuels pour recréer du lien entre nous et pour dépasser le virtuel dans nos relations pour arriver à une forme de vérité entre nous, moi je pense que c'est possible. Moi je pense que c'est possible. Je pense que sans aller vers l'analogique en disant est-ce que tu veux être mon friend, tu vois, est-ce que tu es avec un bout de carton ou des choses comme ça, est-ce que tu veux me share tes goûts. Non, mais je pense qu'on peut vraiment. On partage quelque chose sur Internet qui est assez étrange. On partage que les bonnes choses. On partage très rarement les mauvaises choses, quoi. Et donc, on crée un sentiment d'anxiété terrible chez les gens qui trouvent que leur vie, c'est de la merde. Mais le problème, c'est que toutes nos vies, c'est de la merde, en fait. On a tous des problèmes, c'est juste que sur Internet, on va juste partager les bons moments ou les choses qu'on dit, regarde, le petit café avec le cœur en mousse que j'ai dessus, c'est super, tu vois. Une vie trop bien, quoi. Non, mais peut-être que si ça se trouve, j'ai une vie de merde derrière. Mais je vais partager ce moment-là, quoi. Et des fois, quand on a des saillies de vie de merde comme ça, des gens qui littéralement font des appels au secours, au suicide, moi, j'ai vécu des trucs terribles comme ça en ligne. On est obligé de repasser dans le réel, mais on repasse dans le réel en utilisant les protocoles qu'on développe sur Internet. C'est assez étonnant, en fait, au niveau même du vocabulaire, au niveau même de l'intimité, des choses comme ça. Et donc je me dis que peut-être, à un moment donné, finalement, Internet, c'est juste une forme de simulation du réel qui va nous permettre de retrouver le réel et de nous réapproprier le réel. Sans passer par Internet, hein. juste en comprenant ce qui nous a unis et en disant voilà, ce qui nous a unis jadis dans le virtuel peut nous réunir à nouveau dans le réel, quoi. Voilà, c'est juste une pensée que j'ai là-dessus, hein. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je ne dis pas que c'est ça qui est en train de passer. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut dire sur le sujet qui contredisent mes théories. Mais J'ai essayé dans ce bouquin de faire ça, un peu. C'est-à-dire de dire, est-ce qu'il est possible finalement sur des nanas qui sont tout le temps, qui sont sur la même table, qui sont sur leur machine, qui sont à fond dans leur truc, et qui communiquent en chat alors qu'elles sont à côté les unes des autres, une fois qu'elles se retrouvent livrées au monde face au fascisme avec des tanks, qu'elles soient obligées de réactiver ce qu'elles font en run virtuel, dans le réel, avec le même vocabulaire, avec les mêmes choses, mais à ce moment-là, mais en ce moment-là, en engageant le corps, quoi. Alors qu'elles sont handicapées de ça, hein, littéralement. C'est-à-dire que c'est une génération qui a été coupée de ce lien-là et qui les réapprend et qui se les réapproprie. Voilà, c'est une des théories, c'est un des trucs que j'ai essayé de faire. Ouais.
Alors, il y a justement un point sur lequel je voulais t'interroger par rapport à exactement tout ce que tu viens de dire, en reprenant les mots corps, cyberpunk, virtuel, transform. Justement, c'est la transformation, en fait. Une chose qui ne perle pas dans le roman, en tout cas, et sur laquelle je voudrais t'interroger, c'est le transhumanisme. C'est en fait des questions qui sont largement abordées aujourd'hui et qui inquiètent les humains sur la transformation du corps, le fait que des gens peuvent s'adjoindre des choses. Et je me disais, et ça pouvait être éventuellement un biais. Est-ce que c'est quelque chose que...
Alors, je vais lire un texte. Ouais,
allez.
Je vais lire un morceau où je parle de ça dans le bouquin, en fait. Moi, juste pour faire une parenthèse, moi, je suis en train de me transformer, donc forcément, c'est des choses qui me touchent, ces thèses-là. Je déteste le transhumanisme. Je le vomis, littéralement. Et je vais vous dire
pourquoi. Je te parle de l'amélioration humaine. On est d'accord, je parle de ça.
Ça veut dire quoi, l'amélioration?
L'amélioration, c'est là-dessus que
je... Ça veut dire quoi? Voilà. C'est l'amélioration de la beauté, l'amélioration de la santé, l'amélioration des performances, l'amélioration des cheveux. Moi, j'aimerais bien. Moi, je rêve d'avoir des cheveux, là. Je vais investir dans mes cheveux bientôt. Mais je suis vaine aussi, ça m'arrive. Voilà. Je vais vous lire le texte, puis on peut en discuter. Je vais vous le lire un peu de manière un peu hachée. Parce que ça se passe sur internet, donc il y a des noms de nanas qui parlent entre elles, mais je vais pas vous faire les noms à chaque fois, donc je vais vous le faire un petit peu de manière machin, en essayant de mettre des pauses entre les trucs. C'est sa copine Kato qui lui a mis tout ça dans la tête. Ouais, trop influençable la rebelle. Dites les post-modernes, les post-humains, les post-chiris, post-ivresse, post-gamer, post-violeur, post-pipo, vous captez rien, sérieux. L'autre elle se marre. La rebelle de la console. Sérieusement, allez vous faire foutre. Vous pensez quoi? Que c'est mieux d'être un robot que d'être une femme? Au moins, les trans, ils essaient d'être ce qu'ils sont. C'est ça, le courage. Libéral. Mais vous comprenez pas, Nikki. Elle se trompe aussi. On voit tout depuis le ciel vers la terre. Du plus grand vers le plus petit. Tout vient du ciel. Il nous a fait à son image. Putain, c'est nimp. Comment tu veux qu'on prenne conscience de quoi que ce soit? Tout est transcendant. Alors que non. On sait très bien que ça part de nous, de nos pieds, de nos petites abeilles. Et que ça grandit vers l'infini pour toujours. Et que c'est comme ça qu'on arrivera à comprendre notre place et notre destin de poussière et notre désir de nous étendre à... Bon, alors déjà, si on pouvait prendre conscience de notre désir à ne plus détruire cette putain de planète, ça nous ferait des vacances. Canal Silicone. Pas dans les foufounes. Alors les foufounes au Québec, c'est les fesses. Hein. Kim, tu crains, tu veux pas voir que c'est mort, l'humanité pue, elle chie dans son eau potable. T'as pas à t'intéresser au destin de tes congénères, tout le monde s'en fout, tu vas sacrifier ta vie pour une vertu qui te donnera rien. Dans les foufounes et les seins, mais toi t'as des méga gros lolos. Bah finalement t'es plus cateau que je le pensais. Tu dis nimp, c'est pas en privilégiant une caste qu'on va faire un futur ensemble. Le post-humain c'est un truc marketing pour aider les plus riches à se sentir spéciaux. Et dans un film de SF, mais au final c'est juste un argument pour vendre plus de plastique. Comme tes seins. C'est bien beau la nanotechnologie, encore faut-il avoir la sécu. Voilà, alors je répète cette phrase, c'est bien beau la nanotechnologie, encore faut-il avoir la sécu. Là, je reviens encore à Gibson et à Sterling qui disent le futur est déjà là, c'est juste qu'il n'est pas distribué également, égalitairement. Quoi. Voilà. Je crois que j'ai la suite. Et pourquoi tu crois qu'ils voulaient des putains de capsules suborbitales? C'est pas pour coloniser l'espace, c'est juste pour avoir leur cul de riches bien au chaud pendant qu'on se les pèle dans un hiver nucléaire bien de chez nous, et ils pourront atterrir tranquillement et devenir des rois clés, régner avec leur économie de misère et leur basket en téflon. La parano totale. Je suis pas parano. Tu sais très bien qu'on nous cache des tas de trucs, ils se permettent n'importe quoi, les gens riches, ils sont au-dessus des lois, et maintenant au-dessus de nous, littéralement, dans le putain de ciel. C'est à nous de le dire et de le prouver. Ils ont pas tous un serveur à craquer avec leurs fichiers de secret dessus. Non, mais ça tardera plus. Faudrait s'intéresser à l'histoire de notre beau Canada. Les natifs s'organisent. T'as entendu parler des Powo algonquins sur la grille? Je suis pas arrivé à passer leur Manitou. Geoff dit que c'est des modèles récents, qu'il faut des programmes coréens pour défoncer leur routine. Speaking of that, tiens, le code du démon qui murmure à l'oreille du port 22, ça devrait nous servir pour accéder à l'Anactoron. Champagne. Voilà. Donc, ce que je pense du transhumanisme, c'est précisément ça. C'est-à-dire de dire que pourquoi tenter d'améliorer quoi que ce soit alors qu'on n'est même pas capable de comprendre ce qui se passe? Moi, je parle de mes hormones à tout le monde en ce moment. Un truc de fou, je suis dans ma phase hormonale. Bon, voilà, c'est la vie, hein, j'en parle. Moi, je crois qu'il faut en parler, je crois pas qu'il faut garder ça privé, machin. Moi, je crois que c'est des choses qui sont hyper importantes, quoi. je comprends pas pourquoi un mec peut me dire qu'un jour il va s'uploader son putain, sa putain d'âme sur le machine, etc. Et que moi je lui parle de mes petites hormones déjà qui travaillent toutes ensemble, etc. Et que j'essaie de comprendre comment ça fonctionne et que j'essaie juste de comprendre mon bilan sanguin, quoi. Déjà, je vous challenge de comprendre votre bilan sanguin, quoi. Je veux dire, vous avez vu le nombre de termes, le nombre de trucs qu'il y a, de facteurs, de grammes, de machins, par... c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à essayer de croire que je peux améliorer quoi que ce soit avec de la technologie si déjà je ne suis pas capable de comprendre l'organique. Et moi, je crois que j'en suis là, en fait. C'est que je trouve que, par rapport au transhumanisme, par rapport à tout ce que tu dis, que tout ça, c'est des privilèges. Tout ça, c'est des postures de privilégiés. Tout ça, c'est des gens qui ont de la thune, qui se permettent d'y penser, qui ont le temps d'y penser, qui ont le luxe d'y penser, ou qui sont des artistes. Très bien, très cool. Orlan, très bien, elle y pense, elle le fait, c'est génial. Mais quand moi j'ai mon pote royaliste qui vient m'expliquer que ça serait trop cool de faire ci ou de faire ça, et que putain moi je rêve d'avoir des gants machin et tout, et que ça remplace mes doigts, et que je puisse courir plus vite pour aller à la cuisine chercher machin, je lui dis mais tu plains total, mais qu'est-ce que t'en as à foutre quoi, tu vois ce que je veux dire ? On va arriver à un low-tech total bientôt là quoi. Qu'est-ce qu'ils se font chier avec ces idées-là ? Et ces idées-là, c'est des idées de la SF, et c'est des idées de la geekerie, quoi. C'est de la geekerie pure, quoi. C'est de dire, ce serait tellement bien que je puisse avoir un membre en métal qui s'élève, et que comme ça, je peux me branler avec, et avoir je sais pas combien. Non, mais ils sont complètement dans le délire, quoi. Et moi, je pense qu'à un certain moment, j'ai pu l'être aussi, parce que j'étais dans cette geekerie, et j'étais dans cette... Je me persuadais... qu'on pouvait changer les choses depuis un monde virtuel qui n'était que virtuel et qui était isolé, en disant « Ouais, mais regarde, on s'organise trop bien pour faire des instances ensemble. » Mais non, ça ne veut rien dire, en fait. Quoi. Ça veut rien dire. C'est uniquement motivé par des logiques libérales, voire même pas libérales. Là, on est dans le fascisme de l'avidité, quoi. Et le greed, quoi. Et franchement, moi j'en peux plus des transhumains, quoi. Moi j'en peux plus, sérieux, je peux plus parler ça, les extropistes là, les machins, mais je regarde, je me dis, mais vous savez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quoi. Des corps normaux meurent tous les jours, quoi. Des gens s'écrasent sur nos plages, quoi. S'écrasent sur nos putains de baskets fabriquées en Taïwan, quoi. Des minorités entières se battent pour avoir des droits et des connards descendent dans la rue pour la première fois de l'histoire du socialisme pour dire je veux pas que ces gens aient des droits, quoi. La manif pour tous, c'était ça. C'était littéralement des gens qui descendaient dans la rue pour interdire d'autres gens d'avoir des droits. Vous vous rendez compte de l'absurdité dans laquelle on est, quoi. Et on me parle de robots. Et on me parle de... Non mais moi, mais c'est deux claques, quoi. Y a pas moyen, il n'y a plus possible, excuse-moi, c'est un truc qui vraiment m'énerve en ce moment énormément, quoi. Alors je veux bien comprendre que en tant que trans, je suis enchaîné à l'univers pharmaceutique. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que je ne peux pas envisager d'être la personne que je suis sans avoir un apport que mon corps ne peut pas avoir. Ok ? C'est la vérité, c'est la triste vérité. Je suis enchaîné à la stabilité du conglomérat pharmaceutique. Et ouais, moi, si j'ai pas mes estrogènes, je fais comment ? Mais c'est pareil pour plein de gens. Mmh. C'est pareil pour. Évidemment.
Oui.
Évidemment. Pour c'est pareil pour choses. Plein de femmes, c'est pareil pour plein de gens qui sont malades, évidemment. Mmh. Et ça, c'est terrible. Parce que quand on est anarchiste et qu'on dit rébellion, à mort, liberté, on se dit, une fois qu'on est de l'autre côté, une fois qu'on est dans la solidarité, une fois qu'on est dans les besoins, on se dit, oh, putain, merde, si jamais je fais tout écrouler, comment je vais faire pour arrêter ça, quoi.
La contradiction arrive vite. Hein.
Eh ouais, non, mais là, c'est ce qu'on appelle le reality check, ouais. Quoi. Là, bam, il est là, quoi. Bon. Je grossis un peu le trait, hein. Mais ça, c'est des. Voilà. Et donc, du coup, coexister dans ce monde-là en disant « Non mais attendez, on a des choses qui marchent dans notre monde. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui sont là, il y a des belles choses, quoi. Notamment au niveau médical. Hein. On peut pas nier que les rayons X, c'est trop cool, quoi. Même si ça nous irradie peut-être, ça nous file un cancer que les prochains rayons X vont détecter, quoi. On peut pas... Enfin, moi, je suis content de pouvoir aller prendre de l'aspirine, quoi. Je suis ravi de pouvoir appeler, prendre un médecin et de pouvoir guérir les trucs que j'ai, quoi. Je suis ravi de pouvoir avoir la vie que j'ai besoin d'avoir depuis que je suis petite, quoi. C'est merveilleux, c'est un truc de fou. Voilà. Mais la science, quelque part. La science, oui, mais la science au service de ce qui existe déjà et égalitairement réparti, avant de penser à la science pour améliorer le corps de certains privilégiés qui se foutent royalement que le reste de l'humanité crève dans la boue, quoi. Et pour moi, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire... Ouais, c'est bien beau tout ça, mais déjà, est-ce que la sécu fonctionne, quoi? Est-ce que déjà, on a tous et toutes le même accès aux soins? Et est-ce qu'on a toutes et tous le même accès au droit à l'existence, quoi? Même pas politique, juste au droit à l'existence, quoi. Et ça, c'est une vraie question. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas dans plein de pays, quoi. Nous, on a la chance de vivre dans un pays où il y a la sécu, mais la dernière fois, j'ai entendu quelqu'un me dire « Ah, oh, mais nous, en France, on a une sécu, mais effroyable. »
Oui, là, ça fait peur quand on entend ça.
Je lui dis « Mais de quoi tu me parles ?» T'es déjà allé au Canada, aux États-Unis, t'es déjà allé au Brésil, t'es déjà allé en Afrique, t'es déjà allé ne serait-ce que même en Angleterre. T'as sécu effroyable là. Non mais c'est surréaliste. Donc je pense que le transhumanisme, ça participe de cette obscénité du privilège en fait, quoi. Voilà.
Alors, est-ce que vous voulez poser des questions, réagir dans la salle? Je voudrais. On peut poursuivre sur le roman, mais je voudrais essayer d'en dévoiler le moins possible parce que ça se découvre vraiment par petits bouts, comme ça. Tous les sujets qu'on a traités, puis il y en a d'autres qui arrivent, qui viennent comme ça se greffer. Ça fait un espèce de patchwork et qu'on va découvrir petit à petit, entraîné par les personnages, par ces trois... ces trois filles qui sont... qui vont devoir se dépêtrer ou en tout cas innover, essayer de trouver des solutions pour combattre ce que tu nous viens de ce dont tu viens de nous parler. Est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez envie de réagir, d'engager la discussion? Si
moi, j'ai juste une remarque en fait, du coup, c'est toi qui mentionnais le fait que ce soit cyberpunk. Est-ce que c'est un terme approprié? Parce que j'ai l'impression quand même que c'est plutôt cyber anarchiste, parce que punk c'est nos futurs, donc il y a pas de, c'est pas du tout politique et enfin, c'est complètement apolitique quelque part. Ouais. Alors que là, du coup, j'ai l'impression qu'il y a, comme tu dis, un manuel. Enfin, j'ai pas lu le livre du tout, donc je réagis un peu par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Mais est-ce que la question c'est, est-ce que le terme cyberpunk est approprié?
Déjà, je suis hyper impressionné par la question. Bravo. littéralement, j'utilise le terme proto-cyberpunk. C'est-à-dire que je me situe un tout petit peu avant l'arrivée du cyberpunk, en fait. C'est-à-dire de dire que c'est pas encore nos futurs. Qu'on est encore dans une phase où on voit que ça tend vers le nos futurs dans une société d'oppression, mais qu'il y a encore moyen d'y croire. Parce que moi, je suis une croyante. Moi, je crois que c'est possible de changer le monde, et je crois que c'est possible de changer, je disais tout à l'heure, un cerveau à la fois, quoi. Une voix à la fois, une pensée à la fois, une cognition à la fois, quoi. Et je pense que si on fait tous et tout ça, ça va marcher. Donc moi, je crois qu'on peut changer le monde. Je pense qu'on peut s'en sortir, en fait. Je pense qu'on peut, voilà. Et c'est le propos du bouquin aussi, c'est-à-dire de dire que elles vont trouver un moyen. Tu parlais de moyen, mais le moyen qu'elles vont trouver, il est quand même assez weird. Il est pas du tout, c'est pas du tout un moyen matériel. C'est, elles vont tenter de croire que potentiellement certaines théories sur le dépassement de la réalité et la tentative de trouver de l'autre côté de la réalité quelque chose qui puisse nous aider à sauver la réalité, même si c'est quelque chose d'extrêmement critiquable, hein, est encore possible. Voilà. Donc, votre réflexion, elle est extrêmement fine. Effectivement, ce n'est pas encore du cyberpunk. Ça va devenir du cyberpunk, mais je mets un point d'interrogation à la fin du livre. Je ne dis pas que ça va tendre vers le cyberpunk ou que ça va l'éradiquer. Je dis juste, je suis à ce point exact, ce moment exact, où ça peut basculer vers le cyberpunk, ou ça peut basculer vers toute autre chose. Mais, donc, c'est ce que j'ai appelé du proto-cyberpunk, parce que le cyber-anarchisme, finalement, me paraissait trop... comment dire... je sais même pas si j'ai pensé au terme, en fait, quoi. C'est vous qui me l'avez incepté dans ma tête, là. Mais oui, c'est ça, mais c'est ce que j'ai dit, hein, à la fin, je dis, c'est... proto-cyberpunk, c'est littéralement écrit, quoi. Donc quand je dis que je fais du cyberpunk, je dis juste que finalement, je mets en scène des marginaux avec une forme de technologie qui est basée sur le run, c'est-à-dire sur vraiment le fait de courir. Alors j'utilise l'analogie des coureurs des bois et des coureurs des bois du Canada, qui là c'est les coureurs du net, quoi, voilà. De ces technologies-là, dans une société d'oppression qui est en train de se construire, essentiellement basée sur le run du capital, et sur l'affaiblissement en fait des autorités morales et étatiques, et que voilà, et c'est donc finalement pour moi le cyberpunk, c'est ça, avec une forme aussi d'esthétique cyberpunk qui est remise en cause dans le livre, hein, c'est-à-dire je me sers aussi de l'esthétique cyberpunk pour aller plus loin, pour venir mais c'est quand même intéressant ce qui se passe dans l'esthétique cyberpunk, quoi. Je veux dire la manière dont on met des autocollants sur nos machines, la manière dont on se look La manière dont finalement on accepte finalement d'être entre plusieurs genres, de passer de l'un à l'autre, où rien n'est réel, rien n'est vraiment réel, les drogues, toute cette espèce des espèces d'organisation autonome, l'autonomisme, voilà, tout ça, pour moi, c'est des marqueurs très forts dans la réalité. Voilà. Il y a plein de gens qui disent on vit dans un réalité cyberpunk, mais c'est pas encore le cas en fait. On n'est pas du tout là en fait. Il y a des marqueurs. Il y a des vrais marqueurs. Gibson n'a pas vu du tout certaines choses de la réalité. Il n'a pas vu les téléphones portables, par exemple. Il est complètement passé à côté des téléphones portables, ce qui est quand même assez étonnant, parce que les mouchards, l'observation, la surveillance massive et tout, il est passé à côté de ça. Mais par contre, je pense que dans cette littérature-là, il y avait des marqueurs, notamment chez Sterling, dans Evans of the Net. Je pense qu'il y avait des marqueurs qu'on retrouve aujourd'hui de manière très prononcée et qui ne sont pas du tout des choses que l'ennemi, enfin, ce que j'appelle l'ennemi, enfin, ce que j'appelle l'empan, quoi, cette espèce de... C'est compliqué à décrire, quoi, mais les systèmes d'oppression en général, voilà. La convergence des systèmes d'oppression, qui est en train d'arriver par la technologie, rendu possible par la technologie, c'est pas conscient de leur part de mettre des marqueurs de cyberpunk dans la réalité. Je pense que naturellement, en fait, Gibson avait vu, et c'est les siens, avaient vu dans la transformation de la société de consommation dans les années 80, dans la période Reagan, où on allait, en fait, quoi. Et c'est en ça que c'est brillant, la SF, quoi. C'est quand ça... Il le dit lui-même, des fois, il dit, mais là, je les bras m'en tombent, quoi. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de fou. Et c'est Aidoro, qui est un livre que j'adore, Gibson, qui est le deuxième tome de la trilogie du Bridge. Il y a des choses dans Aidoro qu'on vit, nous, au quotidien, aujourd'hui, quoi. Littéralement, dans le développement de jeux vidéo, on est dedans à fond, quoi. Donc, voilà, pour répondre à ma question, c'est vraiment ça. Pour moi, je me situe un peu juste un peu avant le cyberpunk, en fait, quoi.
Vous parlez beaucoup de l'anarchie.
Oui. L'anarchisme.
De l'anarchisme, oui.
Oui,
oui, pardon. C'est assez clairement la pensée politique qui est une pensée politique, pour ceux que j'en connais, qui est particulièrement ambitieuse et souvent mal comprise.
Oui.
Parce qu'elle refuse l'infantilisation de l'individu.
Oui.
Elle, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un individualisme forcené, mais c'est au contraire une mise en avant de l'individualité au sein d'un collectif qui est souvent un collectif appréhendable, de proximité. Si on voit la pensée de Proudhon, il a quand même pensé la mutualisation, il a pensé les moyens de production de proximité, il a des tas de choses qu'il a anticipé qu'on va maintenant se mettre en place, effectivement, sans que ce soit perçu comme étant le prolongement de la pensée politique anarchiste. Et ma question était de savoir si finalement, question ou votre avis, c'est peut-être le système de pensée politique qui, à ce jour, est le seul que l'on connaisse qui n'est pas fondamentalement échoué, même s'il est compliqué à expliciter, parce que justement il est ambitieux. Et est-ce qu'un moyen de le faire mieux connaître ou de le faire avancer, ça ne serait pas d'essayer de le dissocier de l'image qui lui colle à la peau, qui est celle de la violence à chaque fois, du terrorisme, de ce qu'on connaît de l'histoire de l'anarchie souvent, anarchie justement que l'on utilise souvent plutôt qu'anarchisme, et qui est souvent lié à la violence, alors oui, au terrorisme tel qu'il est décrit, on pense à un président français qui a été assassiné à Lyon par un anarchiste, justement. Et est-ce qu'il n'y a pas... L'avenir de l'anarchie n'est pas dans cette dissociation entre pensée politique et violence. Je ne sais pas, c'est comme ça. Parce que je vous entends parler de ça beaucoup et je ne sens aucune... Je sens de l'énergie, je sens de la colère, je sens aucune violence dans ce que vous... dans ce qui ressort de ce que vous dites, quoi.
Alors écoutez, c'est une question formidable. Est-ce que je suis moi à même de répondre à cette question avec ma petite expérience d'anarchiste et ma petite expérience de... Voilà. Je vais juste essayer de lancer comme ça quelques pistes de réflexion sur le sujet qui me travaille aussi. Et d'ailleurs, c'est bien que vous puissiez me confronter là-dessus, parce que c'est vrai que moi, quand je rencontre des militants et des militantes, c'est toujours pour moi un moment important. Voilà. C'est la pensée politique. Pour moi, c'est ça, la pensée politique. Comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire jamais infantiliser le citoyen ou l'individu. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, les gens sont capables de penser par eux-mêmes, les gens sont capables de s'éduquer les uns les autres, les gens sont capables de comprendre le vrai du faux. On est capable. Et il faut renforcer ce sentiment qu'on est capable et qu'on n'a pas besoin d'être, pas assisté, j'aime pas ce mot, mais pris en charge par le paternalisme et l'avoncularisme des systèmes d'aujourd'hui. Ça, c'est voilà, juste pour préciser ça. Ensuite, je pense qu'il y a effectivement un gros souci, notamment chez les générations de baby-boomers qui ont été élevées dans cette espèce de glorification totale du capitalisme et du libéralisme, que l'anarchisme, c'est avant tout quelque chose d'infantile. C'est-à-dire de dire rien à foutre, je suis un adolescent, je fous une bombe, je te crache à la gueule. Enlever ça du courant historique, ça me paraît impossible. Les gens, ne serait-ce que dans le terme anarchos, quoi, l'absence d'ordre ou l'absence. Après, je sais pas si je crois que c'est l'absence de hiérarchie, en fait. Voilà. Je crois que les gens, ils ont besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'hiérarchie et ça leur fait peur, en fait. Et à partir du moment où ça leur fait peur, ils se disent que c'est violent parce qu'on va détruire leur hiérarchie, quoi. Moi, pour moi, ce que j'essaye de faire, modestement, c'est d'expliquer que l'anarchisme programmatique en tant que tel, pour l'instant, il n'est pas réalisable. Pour plein de raisons. Parce qu'on n'est pas assez parce qu'on n'est pas assez émancipé, en tant qu'individu et en tant que collectif. Parce qu'on n'a pas encore les outils pour pouvoir le faire concrètement, c'est-à-dire les moyens de production, ces fameux moyens de production, ce fameux contrôle des moyens de production. Parce qu'on est. Je suis désolé, je vais vraiment sonner comme une. Mais on a cet empan du capital là qui est en train de nous lacérer, de nous massacrer, littéralement, quoi. Je veux dire, c'est déprimant ce qui se passe, quoi, par rapport à ça. Donc ce que j'essaie de faire, modestement, c'est de dire, est-ce qu'il est possible d'envisager que dans toute société, dans tout programme, l'anarchisme soit une forme de soupape de sécurité? C'est-à-dire soit que toute société. Et toute organisation politique, quelle qu'elle soit, à partir du moment où l'anarchisme existe, est toléré, on va dire, enfin entre guillemets, vraiment, c'est-à-dire est capable d'action sans réaction trop violente de la part de c'est la certitude qu'on virera jamais dans le totalitarisme. Je pense que c'est déjà un premier pas. C'est-à-dire que j'essaie d'éduquer mes parents, moi, qui sont effectivement des baby-boomers, à l'idée que être anarchiste, ça ne veut pas dire tout vouloir foutre en l'air, c'est de toujours dire quelle est la légitimité de la personne qui te donne des ordres. Est-ce que ce type-là, qui se met sur un piédestal en levant les bras, quasiment en signe d'illuminati, quoi, et sans faire de conspiration, mais enfin avec des signes quand même. Je veux dire, Macron, quand il est arrivé au pouvoir, c'était quand même un truc de fou en termes de sémiologie, là. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Macron au Louvre, mais c'était. Oh! Dieu, moi j'ai vu ça depuis le Canada, j'ai halluciné quoi. Ça y est, le mec, il est là quoi. Il avait les bras levés comme ça derrière la pyramide du Louvre qui faisait une forme parfaite derrière lui. Non mais c'était un truc de fou quoi. Et donc je pense que les gens, ils sont impressionnés par les symboles, ils captent les symboles quasiment de manière instinctive maintenant.
Oui, il est complètement déformé, sans
Oui,
savoir
mais bien
avec
sûr, mais même vidé de tout sens. C'est juste des symboles quoi. Je veux dire, le mec, il a traversé l'Arche de Triomphe, il est allé machin, il s'est assis dans un espèce de trône, il a fait des trucs même complètement chelous. Macron, il est quand même allé embrasser la fausse bague de Jeanne d'Arc que De Villiers avait récupérée chez les Anglais pour le foutre au pied du fou, quoi. Non mais alors, réfléchissons un instant à la postmodernité décadente du truc, quoi. Le mec, il a un parc d'attractions qui revisite et qui réécrit l'histoire de France. Il va racheter pour 300 000 euros, 300 000, je sais plus, livres, une bague qu'on sait fausse de Jeanne d'Arc pour la foutre dans son parc d'attractions et le futur président de la République va lui payer le rendre hommage. Non mais. Oh là là, c'est même plus du facepalm, quoi. Et donc, les gens, ils absorbent ces choses-là, ils ne se posent pas des questions par rapport à ça. Donc, nous, c'est notre rôle d'éduquer, et c'est notre rôle aussi de pointer et de dire, quand je dis nous, je dis bon, les anarchistes, c'est-à-dire, bah, peut-être, bah, un anarchiste qui se dit anarchiste, c'est jamais très, 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 très intéressant, quoi. Donc, on va dire qu'il se réclame de l'anarchisme. Voilà, une citoyenne qui se réclame de l'anarchisme. Pour moi, c'est plutôt un moyen de dire, voilà, est-ce que nous pouvons mettre en place des outils, des collectifs, des communications, des liens entre les gens qui permettent de systématiquement interroger la légitimité du pouvoir. Et de toujours dire, à partir du moment où nous sommes capables de questionner les gens qui nous dirigent, et de les virer, manu militari, si ça part en sucette, quoi, alors on ne virera jamais dans le totalitarisme. Mais le problème, c'est que c'est ce qui est le contraire qui est en train de se passer en ce moment. C'est qu'au contraire, il y a une totale foi en nos politiques, alors qu'on sait très bien, mon père il me dit, ouais, ils sont tous des menteurs, mais pourquoi tu votes pour eux? Tu le dis, ils sont tous des menteurs. Ouais, parce qu'il faut. Et là, c'est la fin du débat, il n'y a plus rien en fait là. Et je ne dis pas qu'il faut, même, enfin si je dis qu'il faut arrêter de voter, mais bon, je ne vais pas le dire, voilà, chacun sa mère, mais quelque part, Il faut qu'il y ait dans notre société une vie de l'anarchisme. On est obligé, en fait. Et est-ce que, si jamais l'anarchisme devenait prépondérant dans une société, est-ce qu'on arriverait vraiment à faire une société qui tient debout, parce qu'on aurait quand même des gens, déjà infantilisés, qu'il faudrait dé-infantiliser, sans les tuer, sans les exécuter? Et c'est chaud, quand même. Parce qu'ils voudront être infantilisés. Ils sont infantilisés par leur smartphone, ils sont infantilisés par ce qu'on leur dit à la télé, par le prix du chocolat qui monte, par les guerres, la menace de la guerre atomique, et comment on va faire, et si jamais on n'a plus à manger. Bon, voilà, quoi. Donc, moi, j'ai envie de vous répondre que je crois qu'il y a une vraie reformulation des outils de l'anarchisme. C'est-à-dire de la critique, de la source, de la question de la, du questionnement de la source, de l'échange de valeurs, de l'échange de données, du partage, de l'échange de ressources, d'activation de liens entre les gens, d'activation de liens entre communautés amies, entre mondes amis presque. Et ça, je crois que ça peut marcher. Et ça, je crois que ça marche d'une certaine manière un peu déjà, oui, en fait. Ça marche déjà, en fait, ça.
On le voit de façon complètement empirique dans des systèmes, y compris d'organisation locale. Je parlais des systèmes de locaux de production, d'équivalent de coopératives, etc., qui sont en réalité directement issus, notamment, enfin, on le retrouve après dans la pensée de Proudhon et tout, mais qui sont quand même penseurs de l'anarchisme, quoi, qui sont finalement des volontés, justement, de se réapproprier ce qui peut être perçu comme une forme d'anarchisme, son libre arbitre, son libre fonctionnement, sa liberté économique, et aussi d'être dans une proximité qui permet de s'émanciper, donc de sortir de l'infantilisation d'un système qui nous explique en effet que plus rien n'est possible hors de ce qui est structurellement proposé, quoi. Donc c'est aussi pour ça que effectivement des gens vont voter mais vont voter parce qu'ils ont le sentiment que plus rien n'est possible, et c'est là qu'il y a une grande victoire. Trop de personnes dans les populations sont finalement confrontées à une forme de
désespoir
de nos futurs.
Ouais, le désespoir, ouais, c'est ça. Ouais. Et ils sont en train de capitaliser sur le désespoir.
Bien sûr que toujours tout est possible.
Ils sont en train de rentabiliser le désespoir en ce moment.
Oui, sur la peur.
Ouais, c'est ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'il faut se battre contre les dystopies. C'est pour ça qu'il faut se battre tout ça, parce que ça, c'est des prophéties qui sont
réalisatrice,
ouais, auto-alimentée, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils nous disent il n'y a pas d'espoir, c'est notre système qui est le meilleur, notre civilisation est au summum de ce qu'elle sera, alors qu'on a même pas, on nous dit que c'est trop cher d'aller sur la Lune, enfin je veux dire, c'est du délire, quoi. Je veux dire, si demain les Martiens débarquent, ils nous disent mais pourquoi vous avez tout ce qu'il faut, pourquoi vous allez, c'est trop cher, quoi? C'est le marché, le quoi? c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi votre marché là? Vous êtes limité? Vous avez créé un truc limité et vous l'avez découpé en tranches pour le limiter de plus en plus pour pouvoir. Enfin, c'est complètement fou comme histoire, quoi. Mais oui, non, mais j'y crois à fond, quoi. Moi, j'y crois vraiment, vraiment, vraiment.
C'est le seul système, c'est la seule pensée politique qui, pour l'instant, n'est pas encore trop touchée à ses limites, puisqu'elle n'a pas été.
Elle n'a pas été implémentée, elle a existé sur des poches, justement, de communes en Espagne, pendant la commune de 70, ici. Terriblement réprimée d'ailleurs, enfin moi je veux dire la commune de Marseille, moi j'ai écrit sur la commune de Marseille, c'était un massacre, parce que tous les Parisiens sont, quand ils ont vu que les chefs de la commune à Paris sont venus à Marseille, et ils ont été bouchés, et les Marseillais ils sont bien énervés, quoi. Et là ça a été un carnage, ils ont aligné les cadavres,
c'est très peu connu,
ils ont aligné les cadavres, faut savoir qu'à Marseille les canons ils sont tournés vers la ville, hein, les canons des fortifications, hein. on tire sur les citoyens à Marseille, hein. On tire pas sur l'ennemi, hein. Et ils ont aligné les cadavres
aussi, non?
Hein?
C'est ce qui se produit à Lyon.
Ah ouais, bah ça m'étonne pas. Hein.
Mais alors, ça c'est une question, enfin je rebondis, parce que c'est vrai que c'est une question qui m'est apparue en la lecture dès le début du roman, quand tu situes, donc on comprend que c'est une commune, etc. Et il y a un des personnages de mémoire qui dit, vivement que les autres arrivent, ceux de l'extérieur. Et alors en fait, je me suis dit, ah mais alors est-ce que ça va marcher? Si eux, ce qu'ils arrivent à créer quelque chose, ça s'étend. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? C'est-à-dire que, est-ce que finalement l'arrivée des gens à l'extérieur pour alimenter ce mouvement, il ne va pas l'éteindre en même temps?
Bah oui. Mais il n'y a pas d'extérieur, en fait. Il n'y a plus d'extérieur. Ils se prennent à penser que l'Islande, ils rêvent à l'Islande, voilà. Ils disent ouais, il y a des hackers en Islande qui ont réussi à faire une espèce de république géniale, citoyenne, tout ça. Mais concrètement, si demain, je sais pas, la France, comment ça... Qui va venir nous sauver, quoi? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je veux dire, il n'y a qu'à voir déjà que dans quel état sont les pays qui sont dans les pays oppressés, là. Comment... Oppressés. Oppressés, c'est l'anglais, des fois, qui revient. Oppressés, déjà, qui vient leur aide, quoi? Ouais, j'ai une amie en Libye en ce moment. La pauvre, elle m'explique des choses, quoi. Personne ne viendra l'aider, quoi. Personne. Ils peuvent pas compter sur l'aide extérieure, ils peuvent compter sur personne. Ils sont condamnés à vivre là-dedans, quoi. Dans le système totalitaire, qui est la Libye est un pays en faillite, hein, littéralement, en faillite politique, hein. Failed state, on appelle ça. Un état en faillite, quoi. Pas en faillite financière, en faillite littérale, faillite de fonctionnement, en fait, quoi. Mais le nombre de pays qui sont comme ça, c'est hallucinant. En fait, on ne se rend pas compte des privilèges que nous, on a. Ne serait-ce qu'avec notre passeport, là, dans combien de pays on peut se rendre, en tant qu'en français et française, quoi, ou canadien et canadienne. Mais on est dans les trois premiers, je crois. Et après, derrière, ça tombe direct, quoi. Et bah ouais, mais Burkina Faso, avoir un passeport du Burkina Faso aujourd'hui, bon courage, quoi. Donc, moi, je crois pas à l'extérieur. Hein. Je pense qu'il n'y a que de dedans que ça peut sortir. Il n'y a que de dedans et que ça peut sortir. Après, vous savez, enfin, je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que plus l'ennemi il est gros et plus il est facile à tomber, quoi. Donc il va enfler, il va mourir, quoi. Mais combien de morts il va y avoir, quoi? Combien ça va être un massacre, quoi? Parce que le but, finalement, c'est quoi? C'est de faire la transition entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain sans qu'on massacre les trois quarts de la population, quoi. C'est ça, l'idéal de l'humain, là, aujourd'hui, c'est de dire, on est tous frères et sœurs, quoi. On va pas mourir. Parce que c'est tellement simple, on va dire, allez, vas-y, balance des bombes, et rase de gens, ils nous disent, ouais, mais on peut créer des systèmes à la Star Trek. Ouais, ouais, t'es sympa, mais le système à la Star Trek, il est venu parce qu'il y a eu une guerre qui a éradiqué trois quarts de la population, quoi. Ah ouais, alors tu peux créer une espèce de système magnifique, démocratique, où tout le monde a sa place, etc. Forcément, si t'es 250 000, ça va marcher, quoi. Tu vois? Et ça, c'est voilà, c'est les geeks, c'est ça. Ouais, alors j'ai pris ce système, là, ça marche. Mais non, ça marche pas. Là, l'humain, il est là, l'humain, là. Il crève, quoi, l'humain, quoi. Il est pas dans une espèce d'abstraction comme ça.
Il y avait une question.
Non, pas vraiment une question, mais on a, parce que le livre, c'est un livre relativement bien, on s'en veut optimiste.
Ah, écoutez, ça me fait extrêmement plaisir que vous me disiez ça et que vous l'ayez vu. Quoi.
Et ça nous a
non,
surpris.
Non, vous avez très bien compris, parce que hier, il y a justement quelqu'un qui est arrivé et qui m'a dit, je sais pas si c'est optimiste ou pessimiste. Je lui ai dit, mais non, mais c'est complètement optimiste, quoi. Ah, ça me fait plaisir, quoi.
Vous-même, vous êtes les trois sœurs de l'avènement, en fait, trois sœurs de son IDS, elles sont déifiées.
Oui,
voilà.
Enfin...
Et il y a cette sorte de forêt qu'on voit aussi sur la couverture, de respiration.
Oui.
Donc il y a quand même une forme d'optimisme, quand même, il y a quand même un espoir.
Ah non, mais que les choses soient claires, le futur de l'homme, c'est la femme. Hein. Que les choses soient claires. Okay, pour moi, il n'y a même pas de doute là-dessus. Quoi. Oui, il y a des femmes aujourd'hui, mais regardez, les femmes
indiennes,
elles sont aussi horribles que les hommes. Oui, dans un système patriarcal, elles vont être obligées de faire ça, mais on va pas ça et on voit ce qui se passe. Quoi. Déjà, ne serait-ce que donner cette chance aux femmes, déjà. Moi, je dis go. Ensuite, il y a ce droit à l'existence, de l'existence poétique. Oui. C'est-à-dire ce droit à la... De dire, non, mais...
C'est quand même la fin du livre très belle et très poétique. Oui. Pourtant, on laisse couler l'imagination du bois et de l'eau. Ouf, on respire à ce moment-là.
Mais c'est ça.
On respire.
C'est ça. C'est ça, il faut respirer, mais il faut conspirer, il faut respirer ensemble.
Voilà.
C'est ça, littéralement, conspiration, ça veut dire ça veut dire respirer ensemble. Quoi. Oui. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et peut-être que le lien, il se crée là. Peut-être qu'il se crée. Moi, à Montréal, en ce moment, je vais voir des Quakers.
Et ces trois femmes, est-ce qu'elles ne se sont pas un peu, quelque part, sacrifiées pour justement cette libération de. On ne sait pas, en fait, je me pose des questions, justement, mais je sais qu'il y a quand même un note d'espoir à la fin. Ouf.
Mais bien sûr. Alors. Est-ce qu'elles se sont sacrifiées pour...
Je ne sais pas. Je ne sais pas si elles existent réellement. Si elles ont existé réellement.
Ouais, elles existent là. Voilà. Je ne crois pas à les notions de sacrifice.
Non, vrai. Mais comme il y a parlé, vous avez parlé d'avènement.
Oui, d'avènement. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. C'est exactement
voilà,
ça.
C'est ce mot-là qui
est. Oui. Et ça, c'est un truc que je fais depuis toujours, c'est de l'avènement. C'est-à-dire le monde d'après, en fait, et le moment où, en fait,
voilà,
on débouche sur autre chose.
Ouais.
Oui, oui.
Après,
oui, absolument. Absolument.
Donc, elles se sont battues quand même.
Ah oui, elles se sont battues, hein, les pauvres, là, elles ont pris. Hein. Elles se sont battues. Et les prochaines se battront plus fort encore. Et je crois que le combat n'est pas fini. Mais je suis vraiment contente que vous voyez ça, que vous ayez vu ça dans le texte, parce que ça me fait vraiment plaisir de savoir que ça passe. Quoi. Parce que c'était pas évident que ça passe. Quoi. Et parce que c'est quelque chose de très fin, c'est très subtil, en fait, cette idée-là, de dire qu'avant de se battre, il faut se prendre la main et respirer ensemble et dire allez,
voilà,
on y va. Quoi.
Respirer,
ouais. Ouais, ouais, on y va. Quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est très important. En ce moment, je fais une expérience intéressante à Montréal, je vais voir des Quakers. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier et familière avec les Quakers. Les Quakers, ce sont des gens très intéressants qui viennent de la chrétienté. Ce n'est pas les Amish, hein.
Ouais, voir, hein. Ça, ouais,
non, on les confond beaucoup, hein. Non, pas du tout. Les Quakers, c'est des... Alors, s'ils viennent de la chrétienté, c'est, à la base, c'était les punks de protestants. C'était des gens qui balançaient des bibles sur les curés, qui s'habillaient en noir, qui refusaient d'enlever leur chapeau au passage des royautés. C'était vraiment les anards. Mais bon, à l'époque, la politique était la religion. Ils se sont transformés lentement. Il y a eu des quakers qui sont restés très, très chrétiens, sur Jésus et compagnie. Et il y a une branche, des quakers qui est devenue complètement agnostique, en fait. Et qui est la branche la plus répandue en Amérique du Nord en ce moment. Enfin, en tout cas au Canada. Et c'est une branche qui a une pratique très très belle, qui est la pratique de ce qu'ils appellent le silent expectation, c'est-à-dire le silence, l'attente silencieuse. L'attente silencieuse. Et l'attente silencieuse, parce que la théologie quaker est assez, assez simple en fait, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de bible, il n'y a pas de curé, il n'y a pas de prêche, il n'y a pas d'église, il n'y a rien, il n'y a pas de prodorin, c'est des chaises entre elles. Et on a tous et toutes une lumière intérieure, ou une lumière tournée vers l'intérieur, selon où on se positionne. Et le but du jeu, c'est juste de s'asseoir pendant une heure et de respirer ensemble pour savoir si quelque chose se passe. La plupart du temps, il ne se passe rien. Que les choses soient claires. Mais quand il se passe quelque chose, aussi infime soit-il, c'est un moment de grâce absolue. Ne serait-ce qu'un coup de vent dehors que tout le monde ressent. Voilà. Et dans ces moments-là, dans ces moments de silence profond, où on entend les gens respirer, où on entend des pas bouger, des pieds bouger comme ça, dans le silence, des soupirs, des gargouillements, des gargouilles d'estomac, tout ça, des fois, il se passe des choses merveilleuses et parfois, quelqu'un va se lever et va dire quelque chose qu'il ressent profondément, mu par ce mouvement-là, ce mouvement entre les gens. Et cette parole, qui est très simple en général, qui peut être « Ce matin, je mangeais des tomates, elles m'ont été données par ma voisine, et tous les jours, je me dis quelle chance j'ai de pouvoir manger des tomates. » C'est énorme, en fait, on ne se rend pas compte, parce que les gens qui peuvent manger des tomates fraîches, les gens, il n'y en a pas tant que ça sur la planète, hein. Donc il y a des mots comme ça qui apparaissent comme ça. Et moi je pratique avec les Quakers, je ne me considère absolument pas comme un Quaker, que les choses soient claires. D'ailleurs aucun Quaker ne vous dira, ou Quaker ne vous dira, quand on pose une question à un Quaker, est-ce que vous êtes Quaker, il dira oui, je fréquente les Quakers depuis 50 ans, ou alors oui, je me pose la question, alors qu'ils sont Quakers, ils ont signé, mais ils ne peuvent pas l'assumer parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est en fait. Il y a des Quakers juifs, il y a des Quakers athées, tout. Hein. Et ce moment de grâce là, ce moment de silence, parce que c'est rare le silence quand même. Je veux dire, si là, de maintenant, je vous demande 5 minutes, 10 minutes de silence, là, tous ensemble, on se regarde, alors vous me regardez là, d'accord, mais si on décide de s'organiser pour faire un... ça va être super dur. Hein. Et imaginez ça pendant une heure. Mais quand ça passe, c'est... quand la respiration passe et contamine tout le monde, alors là, c'est un truc, c'est... on se lève, tout le monde a le sourire, les gens se prennent dans les bras, il y a des gens qui pleurent. C'est rien, on n'est pas du tout dans Dieu, Jésus, machin, non, c'est juste la grâce qui passe entre nous, en fait, quoi. Et fréquentant les Quakers, je me dis, quelque part, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose? Est-ce que les Quakers, c'est des pacifistes, les premières féministes étaient Quakers, Margaret Fox, c'est des gens qui se sont battus contre l'esclavage, contre le droit des femmes, contre le droit des homos, contre le droit des trans, qui sont de tous les combats anti-guerre, c'est des gens qui ont créé l'UNESCO, enfin, c'est vraiment des gens incroyables, les Quakers. Et je me dis que ils sont incroyables parce qu'ils ont cette pratique-là, quoi, de respiration collective.
C'est
en fait.
Ça, c'est important dans ce niveau de respiration.
Ah moi je pense que c'est fondamental en fait. Je pense qu'on fait rien sans respiration en fait. Même au niveau de votre santé en fait, si vous respirez correctement, vous serez en bonne santé toute votre vie. Il suffit juste de respirer et de prendre conscience qu'on respire en fait.
Et je me demande, est-ce que la présence de, on part un petit peu de la civilisation grecque.
Moi, je suis né à Marseille. Moi, je suis né à Marseille. La Grèce, c'est la grécité, c'est ma vie.
Donc,
c'est mon imaginaire.
C'est votre imaginaire.
Ouais. C'est mon imaginaire.
C'est pas lié à cette idée de liberté, d'une civilisation un peu ouverte
Oui et non. C'est-à-dire que je pense que mon éducation m'a mené naturellement à aimer ça. Mais chez les Grecs, chaque cité était régie par sa propre charte, en fait, et constitution, et il n'y avait pas vraiment d'homogénéité là, d'entre les cités. Quoi. La démocratie, même la démocratie athénienne avait des esclaves, la démocratie athénienne avait une notion de la citoyenneté extrêmement restreinte, et la démocratie athénienne était une démocratie guerrière, suprémaciste, coloniste.
Capitaliste.
Donc vous avez retenu le pneuma, le souffle.
Oui, j'ai retenu la poésie de la Grèce.
La poésie.
Voilà, mais c'est pas tout, moi j'aime la poésie. J'ai retenu, pour moi la mythologie, c'est un système poétique qui nous permet à tous et à toutes de communiquer des choses en fait, avec les mêmes mots et avec les mêmes motifs. Voilà. Et, Et ça a frappé mon imaginaire aussi. Enfin, je veux dire, là, j'ai acheté, je ne sais pas si vous avez lu la dernière traduction, bon, c'est pas grec, c'est latin, mais la dernière traduction des métamorphoses de Ovid, là.
Elle est en bonne place.
C'est époustouflant. C'est époustouflant. Je veux dire, à chaque phrase, je... Pourtant, c'est Rome. Et pourtant, c'est latin. Hein. Dieu sait que les Romains, moi, je... mais c'est magnifique. Parce qu'il a compris l'essence.
Elle a mis 10 ans aussi.
Oui, elle a mis 10 ans, mais elle a fait un travail... Elle a fait un travail admirable sur le texte, quoi, et sur l'énergie du texte, et sur justement cette énergie-là, c'est-à-dire se dire cette attraction collective, de dire voilà, nous, ça c'est notre. Parce que pour moi, la mythologie, c'est ça. C'est pas la mythologie, c'est pas des figures, c'est génial. Non, la mythologie, c'est juste qu'est-ce qui nous rassemble en fait. Et je crois que c'est ça en fait qui est important finalement pour recréer du lien. C'est qu'est-ce qui nous rassemble plutôt que qu'est-ce qui nous. Même si on est tous et toutes différents. Qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qu'on a en commun finalement, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, quoi, parce qu'on a des trucs en commun tout le temps, et on a tendance à plus le faire en fait, ça, parce qu'on se dit non, je veux être de mon individu, je veux être de mon carré près, et les geeks c'est encore pire, parce que les geeks ils font pipi autour de leur truc et ils veulent que personne s'y intéresse, quoi. Et à partir du moment où tu commences à rentrer dans l'univers, non mais moi je l'ai vu avant toi, et est-ce que t'as vu l'épisode 43 où elle dit machin, 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 machin. Là c'est même plus collectif, je veux dire, mais c'est même vu de manière, c'est même suspect que quelqu'un aime la même chose que vous, quoi. C'est une base de culture, c'est ça, c'est une base de civilisation, quoi. C'est une base de civilisation, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce qui nous manque, en fait. Hein. Il nous manque un projet de civilisation, là. C'est ça qui nous manque, en fait. Il nous manque, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait.
C'est pas aller dans l'espace.
Merci. Non, c'est pas aller dans l'espace, parce qu'on a mérité d'aller dans l'espace, parce qu'on a fait la Terre. Je crois pas, non. Je crois pas qu'on va mériter de faire quoi que ce soit. A...
Est-ce qu'il y a d'autres questions surgissent, sinon je vous propose de on chamboule tout, oh on ouais, fait pause, voilà. Voilà. Bon, il a bien parlé, merci Dave, merci beaucoup, merci bien,
je vais reprendre à boire,
voilà, allez puis on installe tout et puis voilà, si vous voulez faire dédicacer,
merci beaucoup,
ben, merci.
C'était super,
ouais,
c'est vrai, c'était
génial, ça fait un grand